Vous écoutez On lit pour vous.
En juin, je lis Autochtones. Quatre suggestions de livres jeunesse des éditions Prise de parole. Un texte de la rédaction paru le 1er juin 2026 dans le carnet Je lis Autochtones. 1. Antifa. 100 ans de résistance antifasciste de Gord Hill. Traduction de Marie C. Scholl, dimanche. Dans ce percutant ouvrage de bande dessinée et documentaire, l'auteur des 500 ans de résistance autochtone retrace l'histoire du fascisme au cours des 100 dernières années, ainsi que celle des mouvements antifa qui, parallèlement, se sont employés sans relâche à le combattre et à le faire tomber. 2. Quand nous étions des Samis, de Matt Johnson, traduction d'Isabelle Chéreau. Cette imposante bande dessinée au carrefour de l'autobiographie, de l'enquête et de la critique sociale retrace le destin des Samis et éclaire les tentatives d'effacement de ce peuple dans les récits officiels suédois. Matt Johnson y remonte le fil de son passé familial afin de comprendre ses origines et de les situer dans le passé de la Suède et de la Sapmi. À découvrir, l'œuvre d'un bédéiste majeur, disponible pour la première fois en français, arrangée aux côtés de bandes dessinées documentaires comme Persépolis, Maüs ou 500 ans de résistance autochtone. 3. Bleuets et abricots. Deuxième édition revue et corrigée. De Natacha Canapé-Fontaine. Une femme se lèvera, vêtue de ses habits de lichen, vêtue de ses traditions. Vêtue de son tambour intérieur, elle sera debout devant les machines. Mystère territorial. Une brise effleurera vos nuques. C'est du vent dans ma tête, direz-vous. Pour cette réédition, Natacha Canapé-Fontaine a retravaillé le texte dans une perspective décoloniale. Ce geste à la fois poétique et politique rééquilibre la place accordée au territoire et au savoir des premiers peuples dans le tissu narratif. 4. Procession, de Katerina Vermette, traduction de Catherine Denisette et Andrina Turenne. Avec son troisième recueil de poésie, Katerina Vermette poursuit son exploration de la transmission intergénérationnelle. La procession, qu'elle soit joie ou deuil, ne s'interrompt jamais. La poète médite sur ce que signifie écrire, créer, habiter un corps, porter en soi ce qui nous précède et, avec un peu de chance, vieillir à son tour. C'était « En juin, je lis Autochtones, quatre suggestions de livres, jeunesse des éditions prises de parole ». Un texte de la rédaction paru le 1er juin 2026 dans le carnet « Je lis Autochtones ».
Électricité verte et ingéniosité font bon ménage. Un texte paru le 25 février 2023 dans le magazine Québec Science. En plus de leurs vertus premières, les sources d'électricité verte peuvent avoir des avantages surprenants. Un peu d'ingéniosité suffit. On te le dit tous les jours et sur tous les tons. La réduction des GES passe principalement par l'utilisation de sources d'énergie vertes comme l'éolien ou le solaire. Même si elles ne sont pas parfaites, ces sources d'énergie verte offrent des avantages indéniables pour contrer les changements climatiques. Et dans certaines situations, elles peuvent même avoir des bénéfices additionnels insoupçonnés. Il suffit de mettre un peu d'ingéniosité à l'œuvre. C'est le cas des fermes agrivoltaïques. De quoi s'agit-il? De terres agricoles sur lesquelles sont installés des panneaux solaires, tout simplement. Les panneaux produisent de l'électricité propre tout en faisant un peu d'ombre, ce qui peut aider la croissance de certaines plantes sensibles à l'ensoleillement trop fort. Des études ont démontré que lorsque des animaux de pâturage, par exemple des moutons, cohabitent avec des panneaux solaires, ils passent davantage de temps à brouter, bénéficient d'une alimentation plus nutritive, se reposent davantage et sont moins exposés au stress causé par la chaleur. C'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. Autre exemple. Une étude datant de 2018 indique que si l'on construisait des parcs éoliens et solaires à très grande échelle dans le désert du Sahara, on pourrait générer assez d'énergie pour le monde entier et augmenter les précipitations dans la région, donc permettre l'agriculture. Mais attention, très grande échelle, ça veut dire 3 millions d'éoliennes et de panneaux solaires sur 20% de la surface totale du désert du Sahara, soit 9 millions de kilomètres carrés. Un projet intéressant, mais trop ambitieux. À plus petite échelle, un projet pilote mené en Californie vise à économiser l'eau tout en favorisant l'efficacité énergétique. Comment? En installant des panneaux solaires au-dessus de canaux d'irrigation. Dans un premier temps, l'eau de ces canaux permet de refroidir les panneaux, ce qui augmente leur efficacité. Et de l'autre, les panneaux solaires protègent les canaux du soleil et du vent, ce qui diminue l'évaporation. Il faudra cependant attendre la fin du projet, en 2024, pour connaître sa réelle efficacité. Comme quoi, grâce à un soupçon de créativité et d'intelligence, les panneaux solaires et les éoliennes peuvent générer bien plus que de l'énergie. C'était « Électricité verte et ingéniosité font bon ménage », un texte paru le 25 février 2023 dans le magazine Québec Science.
L'atome revient dans le débat énergétique québécois. En sous-titre, le nucléaire continue de polariser le débat. Explication. Un texte de Juliane C. Lelarge, publié dans Le Devoir du 2 juin 2026. Alors qu'Ottawa accélère son développement nucléaire, que Québec évalue différents scénarios énergétiques et que le nouveau chef libéral Charles Millard se dit ouvert à la filière, l'atome refait surface dans le débat public, présenté par ses partisans comme une solution décarbonée pour répondre à la demande croissante en électricité, le nucléaire continue de polariser le débat. Pourquoi y a-t-il résurgence de l'intérêt pour le nucléaire? L'électrification de la société et le recul progressif des énergies fossiles, notamment dans les transports et les bâtiments, devrait entraîner au cours des prochaines années une hausse marquée de la demande en électricité, explique Karim Zaghib, professeur de génie chimique à l'Université Concordia et ancien directeur de la recherche à Hydro-Québec. Il souligne également la croissance rapide du secteur de l'intelligence artificielle et des centres de données qui est susceptible d'accentuer cette pression. L'instabilité géopolitique actuelle et les aspirations à l'indépendance énergétique alimente d'autre part un mouvement de relance de la filière nucléaire observé à l'échelle mondiale. Et le développement de nouvelles technologies comme les petits réacteurs vient renforcer cette tendance, bien que certains experts appellent à la prudence. Alors que le Canada accélère le développement nucléaire, le Québec ne ferme pas la porte à cette avenue abandonnée en 2012 avec la fermeture de Gentilly 2. Cet intérêt s'est notamment manifesté dans les plans préliminaires du plan de gestion intégrée des ressources énergétiques publié en mars, où un scénario de retour au nucléaire est exploré, même si plusieurs acteurs du milieu s'interrogent sur les influences derrière cette inclusion. Citation. On sait par exemple qu'au Québec, la firme Atkin Realist fait des efforts de lobbyisme en ce sens. Il y a aussi des corporations américaines qui exercent des pressions. Fin de citation, explique Jean-Pierre Finet, analyste au regroupement des organismes environnementaux en énergie. L'énergie nucléaire présente-t-elle des avantages? Le nucléaire fait partie des sources d'énergie les moins émettrices de CO2 sur l'ensemble de son cycle de vie, au même niveau que l'éolien et l'hydroélectricité. Citation, par rapport à l'éolien, il y a aussi l'avantage d'être plus silencieux et de ne pas avoir d'impact important sur le paysage ou l'occupation des terres, explique Karim Zaghib, qui note que la géographie du Québec et sa multitude de cours d'eau se prêtent facilement à l'installation de centrales. Selon Guy Marlot, professeur au département de génie physique de Polytechnique Montréal, les infrastructures nucléaires ont également une durée de vie beaucoup plus longue. 60 ans pour une centrale contre 12 en moyenne pour une éolienne. La production d'électricité d'une centrale nucléaire est également sans commune mesure avec les énergies renouvelables, mentionne-t-il. Karim Zaib voit le nucléaire comme un complément à l'éolien et au solaire et insiste sur l'importance de diversifier les sources d'énergie pour assurer la résilience du réseau. Car le nucléaire permet d'assurer un apport énergétique de base plus stable, explique-t-il. Aux yeux de Jean-Pierre Finet, par contre, le caractère non modulable du nucléaire est un désavantage. Citation, « Pour l'hydroélectrique, on peut s'adapter selon la demande. Avec le nucléaire, c'est le pied dans le tapis en permanence, explique-t-il. » Fin de citation, soulignant que l'énergie produite en période de faible demande est vendue à bas prix, voire à perte. Citation, d'où le fait qu'on achète beaucoup d'énergie à faible coût à l'Ontario, qui n'a parfois d'autre choix que de s'en départir. Fin de citation. Les progrès en matière de stockage d'énergie relativisent aussi le problème de l'interminence des énergies renouvelables, dit-il. Citation, le nucléaire constitue parfois une solution de rechange pour des acteurs plus climato-sceptiques qui rejettent par principe les renouvelables. Précise pour sa part Philippe Gauthier, fin de citation, analyste en énergie à la Fondation Rivière, qui donne comme exemple la stratégie énergétique déployée par le gouvernement Trump aux États-Unis. Qu'impliquerait un réinvestissement dans la filière au Québec? Citation, ce serait extrêmement cher. Fin de citation, résume d'emblée Philippe Gauthier, qui précise que le développement nucléaire est l'une des formes de production d'énergie les plus dispendieuses. Citation, c'est une industrie généralement très subventionnée par l'État parce que le privé est moins prêt à prendre ses risques, ajoute pour sa part Jean-Pierre Finet. Fin de citation. Il souligne que la majorité des projets de construction de centrales nucléaires s'étalent généralement sur une dizaine d'années, dépassent les délais et les budgets prévus. Citation, les deniers publics viennent dérisquer les projets, note-t-il, en ajoutant que les clients sont ensuite appelés à absorber les coûts. Autre enjeu, l'expertise québécoise est en voie de disparition. Citation, pour pouvoir fermer les centrales Gentilly, Hydro-Québec a dû retourner voir ses retraités qui étaient les seuls à avoir encore cette expertise. Fin de citation, se souvient Philippe Gauthier. Ce manque d'expertise fait de la filière une entreprise encore très américaine, affirme Jean-Pierre Finet, qui rejette l'argument de la souveraineté énergétique. Il mentionne que les plus grandes installations nucléaires canadiennes, les laboratoires de Chalk River, sont depuis 2025 gérées par un consortium privé américain, dont certaines des plus grandes entreprises sont liées au secteur américain de la défense. La question de la sécurité est-elle encore d'actualité? Citation, aujourd'hui, la sécurité est un acquis. Fin de citation, soutient Karim Zaghib, qui mentionne que les accidents se font désormais très rares. La question qui fait débat demeure celle des déchets radioactifs. Citation, avec nos capacités actuelles de forage, on est capable de les enfouir à des dizaines de kilomètres sous terre, affirme le chercheur. Fin de citation. Autre citation, la question des déchets est loin d'être réglée. Fin de citation, objecte pour sa part Jean-Pierre Finet. Il cite comme exemple le déversement d'eau usée toxique issue des installations de Chalk River dans la rivière des Outaouais en 2024. Le projet nucléaire, qui a reçu dans les dernières semaines une subvention fédérale de 2,2 milliards, prévoit l'enfouissement de grandes quantités de déchets radioactifs près de la surface. Cette partie du projet fait l'objet de litiges, entre autres, avec la communauté Anishinaabe Kebaowek, qui a remporté une victoire à ce propos le 28 mai dernier en Cour fédérale d'appel. Plus largement, des experts reprochent à l'industrie nucléaire un réel manque de transparence. Citation: « Le processus de surveillance actuel est pratiquement inexistant », déplore Philippe Gauthier, qui juge trop étroit les liens entre l'industrie et les instances de réglementation. Il cite comme exemple le cas des 62,8 tonnes d'uranium irradié déplacées dans le secret sur les routes du Québec à l'été 2025. Plusieurs experts interrogés estiment que la tendance mondiale de retour à l'énergie nucléaire doit également être analysée à la lumière du phénomène de réarmement nucléaire. Citation: l'industrie militaire a besoin de l'industrie civile pour développer son expertise, explique Philippe Gauthier. On ne peut pas faire abstraction du fait que les applications militaires font encore partie de l'équation. Fin de citation. Le développement du nucléaire s'inscrit-il dans une optique de transition? Citation: il ne faut pas confondre l'ajout de production décarbonée avec la décarbonation, explique Jean-Pierre Finet. Tout ce qu'on fait jusqu'à présent, c'est ajouter de la production décarbonée sans réduire le reste de notre consommation, ce qui ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre. C'est surtout un prétexte pour industrialiser davantage. Fin de citation. Selon lui, il ne s'agit pas d'augmenter la production d'énergie, mais de mieux en gérer la distribution et la consommation, notamment au moyen d'un stockage plus efficace. Plus largement, des experts appellent les gouvernements à oser parler de sobriété énergétique. Citation: on dirait qu'on fait tout ça pour éviter d'avoir à changer nos comportements puis nos modes de vie. La perspective extractiviste n'est pas soutenable, soutient M. Finet. Fin de citation. Fin de ce texte de Julianne C. Lelarge, titré « L'atome revient dans le débat énergétique québécois », publié dans Le Devoir du 2 juin 2026.
L'efficacité énergétique serait 5 fois moins chère que produire de la nouvelle électricité. Un texte de Stéphane Roland de la Presse canadienne paru le 9 juin 2026 dans Le Devoir. Les mesures d'efficacité énergétique sont plus abordables que l'ajout de nouveaux projets de production, souligne la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal dans un rapport dévoilé mardi le 9 juin 2026. Les économies d'énergie qui peuvent ensuite être redirigées à d'autres fins coûtent en moyenne 3 cents le kilowattheure, estime l'étude commandée par Conseil québécois des entreprises en efficacité énergétique CQ3E. En comparaison, produire de l'électricité supplémentaire coûte 12 sous du kilowattheure. Ça coûtait grosso modo 5 fois moins cher de faire de l'efficacité énergétique par rapport à construire de nouveaux projets, illustre le titulaire de la chaire, Pierre-Olivier Pinault, en entrevue. L'efficacité énergétique a aussi l'avantage de réduire la vulnérabilité du réseau, enchaîne-t-il. La quantité d'infrastructures à entretenir est moins grande. Elle apporte aussi des avantages en cas de panne. On peut penser à une maison très bien isolée, donne en exemple M. Pinault. En cas de panne d'électricité, elle va rester confortable beaucoup plus longtemps en hiver qu'une maison qui est mal isolée. Nonchalance généralisée contre efficacité. Hydro-Québec s'est donné l'objectif de réaliser des gains d'efficacité de 21 TWh, TWH, dans son réseau d'ici 2035. Cet objectif ambitieux est techniquement très réaliste, mais il sera difficile de mobiliser suffisamment les entreprises et les consommateurs, croit Pierre-Olivier Pinault. On a une espèce de nonchalance généralisée qui est liée à l'abondance historique d'énergie au bas prix, ce qui fait que ce n'est pas une priorité pour beaucoup de gens, constate-t-il. Le simple fait qu'Hydro-Québec doive faire de la publicité pour l'efficacité énergétique, c'est le signe qu'il y a un manque de préoccupation à la base chez les consommateurs, souligne l'expert. Il y a un fort potentiel d'économie d'énergie dans le secteur industriel et dans les bâtiments commerciaux et institutionnels. Le rapport indique que 60 % de la consommation d'énergie du secteur industriel est perdue sans être valorisée. On pourrait recycler cette chaleur, la réinjecter dans les immeubles, chose qui se fait très peu, note le président du conseil de CQ3E, Michel Méthotte, en entrevue, donnant en exemple la récupération de la chaleur pour des usages agroalimentaires. Un des obstacles à l'efficacité énergétique en entreprise est que l'horizon d'investissement est souvent trop court pour évaluer la rentabilité des projets, note toutefois M. Pinault. Comme ce n'est pas forcément rentable sur 5 ans, on laisse faire. Les bâtiments sont toutefois des actifs qui ont une durée beaucoup plus longue que 5 ans, fait-il valoir. L'efficacité énergétique, une large industrie. Le rapport trace également un portrait de l'écosystème d'entreprises liées à l'efficacité énergétique. Cette industrie regroupe près de 12 000 entreprises qui touchent de près ou de loin à l'efficacité énergétique, souligne M. Méthotte en entrevue. On est quand même très fragmenté. Il y a des équipementiers, il y a des consultants, il y a des entrepreneurs spécialisés, reconnaît-il. L'industrie générerait des revenus de 27 milliards de dollars et embaucherait près de 100 000 personnes. On a quand même des impacts très favorables sur l'économie en général, avance Michel Méthotte. On est aussi une source d'approvisionnement en énergie. C'était « L'efficacité énergétique serait 5 fois moins chère que produire de la nouvelle électricité », un texte de Stéphane Roland de la Presse canadienne, paru le 9 juin 2026 dans Le Devoir.
Mois national de l'histoire autochtone. Célébration, littérature et contes. Un texte d'Angélique Bernard, paru le 4 juin 2026 dans l'Aurore boréale. Ce mois est une occasion d'en apprendre plus sur les cultures, les traditions et les expériences uniques des Premières Nations, des Inuits et des Métis vivant au Canada. Le Mois national de l'histoire autochtone existe depuis 2009. C'est un moment pour découvrir et célébrer la richesse des cultures et des communautés autochtones au Canada d'aujourd'hui et les réalisations des personnes autochtones. C'est également un temps pour considérer le passé, reconnaître les répercussions continues de la colonisation et réfléchir à la façon dont nous pouvons tous et toutes contribuer à la réconciliation. Le 21 juin de cette année marque le 30e anniversaire de la Journée nationale des peuples autochtones. Cette journée est l'occasion de reconnaître et de célébrer les traditions, les cultures et les contributions des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada. Elle coïncide avec le solstice d'été et marque le plus long jour de l'année et représente une signification culturelle et spirituelle profonde et un symbole de renouveau, de connexion et de célébration. Célébration et littérature. Comme chaque année, le Centre culturel Kuan-Lindon organise des célébrations gratuites entourant la Journée nationale des peuples autochtones à Whitehorse. Ce sera une journée remplie de prestations musicales, d'ateliers, de démonstrations d'artistes, de nourriture, de célébrations communautaires et beaucoup plus. La tête d'affiche sera Notorious Cree, James Dunn, qui est un danseur de cerceau acclamé. Les diverses Premières Nations du Yukon organise également des activités dans les collectivités pour la journée du 21 juin, comme un rassemblement autour d'un feu sacré à Dawson, des ateliers d'art autochtones et des histoires autour d'un feu de camp à Haines Junction et un festin communautaire à Old Crow. Consultez les sites web et médias sociaux des Premières Nations pour les programmations détaillées. Le Yukon Native Language Center à Whitehorse s'apprête à terminer la traduction de 16 livres pour enfants de Robert Munch en langue autochtone. Commencé en 2022, ce projet consiste à traduire les livres de l'anglais vers 4 des langues autochtones du Yukon, soit le Tlingit, le Tutchone du Nord, le Tutchone du Sud et le Kaska. Les Premières Nations de Natchoniakdon, de Champagne, d'Aes Chihik, de Little Salmon Carmack, de Carcrostagis, de Lyard, de Clouane et de Selkirk ont participé au projet. Un festival de contes. Le 20 juin se tiendra le premier festival des contes de la commissaire du Yukon au parc Shipyard. John First, le messager d'histoire du Yukon et l'organisateur de ce festival, mentionne qu'il était important pour la commissaire d'avoir une activité durant l'été. Ce sera une journée d'histoire, de musique, de poésie et de contes. Il y aura également une performance de cranky, boîte avec une fenêtre où une manivelle fait dérouler 2 bobines de papier illustré, explique M. First. Au moment de rédiger l'article, 19 artistes étaient inscrits, dont des conteurs et conteuses autochtones. Le thème est le Yukon et le Nord. Les artistes peuvent présenter leurs histoires dans la langue de leur choix, mais ils et elles doivent fournir une interprète pour raconter l'histoire en anglais. Je voulais vraiment accomplir ce genre d'activité durant mon mandat de messager d'histoire qui se termine à la fin de 2026. À savoir si l'événement va se reproduire tous les ans, cela va dépendre de la prochaine personne nommée à ce poste en 2027, conclut M. First. C'était Mois national de l'histoire autochtone, célébration, littérature et contes. Un texte d'Angélique Bernard, paru le 4 juin 2026 dans l'Aurore boréale.